Everywhere you go, everyone you know. On the road, in the club, everyone you know does.
It's impossible to stop when you start to feel it. Can't you believe it? That the whole world needs it.
Bonsoir et bienvenue dans le 15e épisode de Cyclocast. Je suis Grincheux.
Je suis Proc.
Et je suis Warthog.
Et ce soir, nous avons un invité en la présence de d'Arnaud Manzanini, dont je vous ai déjà plusieurs fois parlé. Bonsoir Arnaud.
Bonsoir tout le monde.
Alors, on va un peu bousculer l'ordre de l'émission traditionnelle, puisque tu nous as dit que tu avais des contraintes familiales. Donc on va commencer par t'interviewer.
En fait, là en l'occurrence, il y a Warthog et moi, on est en train de se regarder les deux mecs qui ont pas de charge de famille en train de ricaner.
Alors moi j'ai deux chats, c'est une charge importante, hein, faut pas déconner.
Donc voilà, non mais c'est effectivement important, donc voilà, c'est parti.
Alors qui commence
Bah écoute, vu que Mogor est pas là ce soir, je vais, enfin elle est pas là, elle est un peu loin là, et on va, je vais faire comme elle fait d'habitude, c'est-à-dire qui es-tu et sur quoi roules-tu?
Alors je suis donc Arnaud Manzanini, j'ai 42 ans. Je suis lyonnais d'adoption, parce que je ne suis pas du tout originaire de la région.
Tu es de quelle région?
Je suis de Saône-et-Loire.
Ah oui, donc t'es
petite
pas
ville de Guignon, voilà, en Bourgogne.
Pays de l'indépendant.
Et je roule ça va me revenir, hein, mais je roule sur un vélo à deux roues, voilà. Et donc j'ai deux vélos en fait, j'ai un Focus pour mon vélo de contre la montre, voilà. Et je suis sur Giant sur route.
Très très bon choix le Giant, je plus sois.
Tu n'as que des vélos sportifs alors?
J'ai eu un fixie que je me suis séparé il y a peu. Je suis en train d'en remonter un pour le début d'année là. Ouais, un vieux cadre récupéré chez mes parents qui a bien 25-30 ans. Ouais. Qui sera un Fadjin.
D'accord.
Un quoi?
Un Fadjin.
Un Fadjin, c'est la marque?
C'est la marque.
C'est un artisan.
Exactement. Ouais.
Qui faisait des cadres de très bonne facture.
D'accord. Un peu comme Bazou ou...
Je ne sais pas, mais je sais que c'est probablement l'artisan qui avait fabriqué le vélo de mon père. Donc,
D'accord.
Mais à l'époque, on ne trouvait pas toujours beaucoup facilement historique des vélos.
Exactement.
Très bien. Moi, je vais commencer par te poser une question. Alors, donc pour ceux qui n'auraient pas écouté les épisodes précédents, j'ai parlé de toi parce que tu as fait la rame, tu as été victorieux à la rame cette année, en 11 jours et...
2 heures et 38 minutes.
2 heures et 38 minutes, bravo. Et donc pour ceux qui n'auraient pas écouté les épisodes précédents, la rame, donc c'est la Ride Across America, donc une course qui traverse les États-Unis d'ouest en est, et ça fait quoi,
4860 km.
Donc en 11 jours
11 jours, 2 heures et 38 minutes, ouais.
Waouh.
Bravo. Alors, d'abord,
déjà quand Grincheux nous l'a annoncé, on a un peu on a accusé le coup avec Mogor, on l'a regardé avec des yeux comme des billes. C'est pas possible, et de l'entendre et t'avoir en face comme ça et de se dire ah ouais,
comme quoi tout est possible.
Voilà, j'ai encore du niveau à acquérir. Donc moi j'ai vous avez peut-être des questions aussi, hein.
Moi j'ai une question. Comment on en arrive à partir sur une course comme ça? Parce que je me doute que t'as déjà fait des choses avant pour... tu dis pas un jour, oh, je vais me préparer, je vais faire la rame, t'es comme ça d'un seul coup.
Bah, c'était presque ça, sauf que ça, j'ai eu 5 ans de préparation, mais entre le moment où j'ai découvert cette course et j'ai eu l'envie de la faire et au moment où j'ai franchi la ligne d'arrivée, il s'est écoulé à peu près 5 ans. Ouais.
D'accord.
J'ai découvert cette course un peu par hasard sur Internet. Et,
Tu faisais déjà du vélo de route, ouais. Tu faisais déjà de la course?
Ouais, j'ai été à haut niveau dans les années 90 et j'ai arrêté parce que j'entraînais active en 2000, je crois septembre 2000, parce que j'ai terminé sur un record de l'heure en Dauphiné-Savoie sur la piste de Grenoble.
D'accord.
Je suis rentré en active, j'ai coupé pendant 9 ans jusqu'en 2009, donc, et en 2009 suite à une opération d'une hernie inguinale, j'ai repris un petit peu de sport.
Mm-hmm.
Et puis j'ai recroisé un copain qui avait une licence dans un club, j'étais avec lui et puis je me suis mis à faire du vélo, une première licence, une victoire sur la deuxième course, et puis c'est reparti, et puis voilà.
D'accord.
Okay. Jamais d'ultra distance.
Alors pas de vélo pendant 9 ans, rien du tout?
Rien du tout, ouais. Vraiment. Je pense que ouais, c'est moche, ouais. C'est moche, mais c'est une leçon. Il faut se servir de l'expérience pour ne pas reproduire les mêmes erreurs.
Est-ce que tu vois, je pleurnichais parce que je me suis dit cette année j'ai fait aucune rando. Tu vois, je continue à vélo taffer, mais j'ai fait aucune rando, ce qui veut dire que rien n'est perdu pour moi. C'est plutôt
exactement. Tout est possible.
Voilà, de l'espoir.
Et alors, moi j'ai découvert ta préparation quand tu as fait le Dunkerque Marseille.
Exact.
Et mais la préparation pour la rame, ça consiste en quoi? Parce que
alors la préparation pour la rame, il y a aucune autre course qui prépare pour cette course, si oui. Ce n'est la course en elle-même, puisque 4900 km c'est une des courses les plus difficiles au monde en ultra à distance, hein. Puis c'est vraiment de l'extrême, c'est-à-dire on est seul, on peut pas être abrité, oui, en peloton. Donc des courses en France comme du Bordeaux-Paris que j'ai fait moi il y a 2 ans, c'est considéré en France comme de l'ultra distance parce qu'il y a pas d'autres courses ultra distance, donc on catalogue celle-ci comme de l'ultra, mais une course d'ultra distance, vous êtes seul, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de vous abriter avec un autre concurrent, pas le droit de rester à côté de lui plus de 200 ou 300 mètres. Donc
c'est si strict que ça. Ouais.
Ah, puis c'est réglementé, hein. D'ailleurs, la rame est une épreuve World Cup parce qu'il y a une épreuve Coupe du Monde qui existe. Il y a des cumuls de points qui se font sur la traversée d'Irlande, sur la traversée d'Italie, sur énormément de courses aux États-Unis. C'est un sport qui est très 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 développé aux États-Unis. Donc voilà, j'ai découvert cette course un peu par hasard et tellement extraordinaire que je me suis dit waouh, il faut, ça serait quand même super de pouvoir faire ça, quoi.
C'est un sacré achievement dans la vie qui est.
C'est sûr, ça donne énormément de sérénité sur ce qui arrive après, parce qu'une fois que vous avez réussi à traverser ça en équipe, on se sent quand même solide mentalement, ouais.
Ouais, carrément. Et c'est une donne psychologique, c'est voulu pour
aussi, je suis en train d'ailleurs d'écrire je suis accompagné par un écrivain sur ça, j'essaie d'écrire un livre sur ça justement, sur la traversée, parce que ça m'est demandé par beaucoup beaucoup de personnes qui nous ont suivis que je puisse partager ce qu'on a vécu, parce qu'il y a eu des aventures tous les jours, hein. Il y a eu des aventures dans l'aventure, mais mon objectif à moi et pourquoi j'ai voulu être au départ de cette course là c'était quelque part de savoir qui j'étais moi-même, en fait. Moi, j'ai vu ce rendez-vous comme le départ du 16 juin 2015 qui était le départ de la course, un rendez-vous avec moi-même. Je savais qu'à ce moment-là, j'allais savoir qui j'étais pendant 11 jours, ou peut-être que 2, parce que je savais pas ce qu'allait se passer, hein. J'avais fait des records effectivement Dunkerque-Marseille, mais ça c'était 2 jours et quelques heures, mais là c'est 11 jours, donc avec un maximum de 12 jours. C'est-à-dire que vous devez, sur cette course, on ne peut pas mettre plus de 12 jours, sinon c'est éliminé, ouais. Voilà.
Et du coup, t'as 42 ans, est-ce que tu penses que ton âge est important dans cette démarche? Tu penses que t'aurais pu le faire en étant plus jeune, ou est-ce qu'à l'époque ça t'intéresse pas?
C'est une course qui est énorme. Il y a les participants, la moyenne d'âge est bien plus âgée, en fait, hein. D'ailleurs, cette année, le plus vieux coureur a été un Français qui a terminé cette année et qui a 69 ans. 69 ans, il a mis 12 jours et, je sais pas, 15 heures, je crois. Ou,
ah voilà. Ouais.
Donc oui, c'est vraiment une course d'endurance. En fait.
Ça me fait penser un peu à l'Ultra Trail où, en
tout
général, les participants sont plutôt anciens, plutôt proches de la quarantaine, quoi.
Exact. Il faut avoir une certaine expérience.
Ouais, c'est plus une course de mental que de physique.
C'est même, je dirais même 80% de mental, ouais.
D'accord.
Je rejoins un petit peu ce que dit Warthog. En l'occurrence, il y a aussi une donne, j'ai comme l'impression qu'en fait il faut quand même atteindre un certain âge pour avoir plus d'endurance. Moi, c'est vrai que je l'ai vécu au travers de la cyclo-rando, mais amateur, que je fais là, 50-100 bornes par jour. J'en étais incapable quand j'étais quand j'avais la vingtaine. Là, je me sens déjà plus capable de le faire, et surtout je vois, j'ai un frangin qui est marathonien et qui court maintenant du 40 bornes assez facilement, et il lui a fallu c'est avec l'âge qu'il a progressé. Donc je me demande, je te demande, vu que t'as quand même plus expérience que moi, il y a aussi une acquisition de l'endurance qui se fait avec l'âge, non?
Ouais, enfin, je pense que c'est aussi une question de caractère, hein, puis une manière de s'entraîner. C'est-à-dire qu'effectivement, plus on est jeune, on fait des courses de courte distance, et puis on n'a pas la tête à se dire bon, allez, je vais partir m'entraîner 8 heures, quoi. Enfin, ça reste un peu à part, mais je pense que après ça vient avec l'âge, peut-être le fait d'aller peut-être plus lentement, faire les choses un peu plus lentement, mais peut-être un peu mieux préparé que de partir en étant fougueux sur quelque chose. Mais
c'est vraiment mental.
C'est mental, mais c'est aussi une question d'entraînement, parce que pour préparer la course, comme la question m'a été posée tout à l'heure, je me suis pas du tout entraîné pendant 7 mois, puisque je me suis consacré à cette course vraiment au niveau de mon entraînement physique, parce qu'il y a eu tout un côté préparation organisationnelle de l'épreuve, le déplacement, la réservation des hôtels, du camping-car, de l'équipe. Ça a été 2 ans de travail, mais pendant 7 mois, moi, je me suis consacré qu'à mon physique, qu'à mon entraînement, à ma préparation physique, et toute mon équipe, elle, gérait tout ce qui était à côté, justement. Voilà. Donc, l'entraînement pour de l'ultra-distance, la manière de s'entraîner est complètement différente que pour des courses de 100, même 180 km au niveau national, ça n'a rien à voir. La manière de s'entraîner est totalement différente.
Oui, là tu avais une équipe logistique qui te suivait. Il y avait combien de personnes?
J'avais 8 personnes avec moi. J'ai 11 personnes dans le team, mais pour des moyens financiers, on n'a pas pu emmener tout le monde. Oui. Et seulement 8 personnes sont venues avec moi. Donc on avait vraiment ciblé et recruté. Il y avait vraiment un kiné, c'est un pro, c'est son métier. Il y avait ma sœur, il y avait un mécano. On a vraiment cherché des personnes qui pouvaient m'aider sur des blessures. On a anticipé tout ça, en fait, quoi. On a acheté une minière pour les blessures, pour pas que les muscles du coup lâchent. Donc on avait anticipé tout ce genre de problèmes qui pouvaient arriver sur l'ultra distance.
D'accord. Mais par contre, si j'ai pas suivi au jour le jour, mais par contre, vous avez eu un problème avec le camping-car.
Oh là là, quel problème. En fait, pour vous résumer un petit peu la course, la Race Cross America existe à peu près depuis 35 ans. Voilà. Avant qu'on soit au départ, seulement 4 Français l'avaient terminée. Donc déjà, c'est pour ces raisons qu'elle est très peu connue. Hein. 4 Français l'avaient terminée, et notamment un Lyonnais. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert cette course, et auprès de personnes que j'avais pris des conseils, qui est Dominique Briand, qui lui l'avait terminée en 2009, en 11 jours, une quinzaine d'heures, je crois. Voilà. Donc c'est 4900 km à faire en maximum 12 jours, et vous avez 54 points de contrôle. Donc on a tous un roadbook qui est le même pour tout le monde, on emprunte tous la même route, sur route ouverte. Donc il est arrivé qu'il y a eu des décès, parce qu'il y a des gens qui se sont endormis avec la fatigue, et il y avait des camions en face ou des voitures. Donc c'est arrivé encore cette année. On a un concurrent danois qui est toujours malheureusement dans le coma. Voilà. Il a eu un accident à 24 heures de l'arrivée, pris dans un accident de la circulation. Donc il y a 54 points de contrôle où chaque fois que vous passez vers une station service ou un parking de McDo, vous signalez votre présence par téléphone au commissaire. Et vous avez une centaine de commissaires qui tournent tout au long des États-Unis pour vérifier que vous respectez bien le règlement. Voilà. Et sur ces 54 points de contrôle, vous avez 2 cut-off. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas passé à tel jour, telle heure, vous êtes éliminé. Vous n'êtes plus dans la course. Donc, on ne peut pas se reposer comme on veut. Il faut toujours gérer son avance un maximum. Donc, c'est hyper, hyper stressant. C'est pour ça qu'il faut être très bien entouré par des personnes en qui vous avez entièrement confiance. Voilà. C'est-à-dire que vous, votre seul objectif, c'est de pédaler et de vous laisser guider par l'oreillette, parce que c'est le seul moyen par lequel on est relié avec une communication extérieure. Donc, et vous avancez comme ça. Donc, le mental, très vite, on est pris dans une sorte de méditation. J'en ai discuté avec de nombreuses personnes. Une fois revenu des États-Unis, j'expliquais, moi, ce qui m'est arrivé, les hallucinations, la perte de mémoire. Il y a des moments donné, j'ai plus du tout de souvenirs sur où j'étais, ce que je faisais, le fait de m'imaginer en Italie alors que j'étais aux États-Unis. C'était une sorte de j'étais comme en méditation, et pour ça il faut vraiment faire une entière confiance à votre équipe. Quand elle vous dit c'est à droite, c'est à gauche, on s'arrête, on continue, donc c'est vraiment le mental, c'est je pense 80%. Ouais.
Mais du coup c'est toi qui décides de t'arrêter, ou c'est l'équipe qui dit à un moment donné là t'en as fait trop, il faut que tu t'arrêtes, il faut que tu te reposes, comment ça marche, ça se négocie, ça...
Alors en fait on avait à peu près planifié les 48 premières heures de stratégie, voilà, parce qu'on est obligé, même si on peut pas partir avec une stratégie sur 11 jours, c'est impossible. C'est une course dans laquelle, qu'une fois que vous êtes lancé, il faut faire preuve d'adaptabilité. Si vous ne savez pas vous adapter à la situation, vous êtes pris de panique très rapidement. Et d'ailleurs, nous-mêmes, on est obligé de l'adapter au bout de 8 heures de course, pour vous dire, parce qu'on a été pris dans le désert tout de suite avec 45 degrés, et on s'y attendait pas, quoi. Voilà, moi, la chaleur par 45-50 degrés, je connaissais pas. Et en fait, c'est comme si, pendant que vous pédalez, vous avez un groupe de personnes qui vous appuient dans le dos pour vous écraser par terre, quoi. La sensation, c'est celle-ci. Donc, on est obligé de s'adapter et de faire des pauses toutes les 20 minutes. Voilà. 5 minutes, 20 minutes, 5 minutes, 20 minutes. Pour passer la journée dans le désert. Et on a passé une journée comme ça dans le désert. Et c'est comme ça qu'on s'en est sorti, en fait.
C'était quel désert, en fait? Parce que tu es parti d'où à où?
On est parti de Oceanside. Donc, Oceanside, c'est, on va dire, 2 heures de route en dessous de Los Angeles et 1 heure au-dessus de San Diego. Donc, pour vous situer, c'est pas très loin de la frontière mexicaine. Donc, on a coupé la Californie, directement. On est arrivé en Arizona très vite. L'Arizona, on est remonté à l'Utah, le Colorado, puis après, donc, toutes les plaines. Mais la chaleur est juste incroyable. Donc je décidais pas de ce que je faisais, parce que très rapidement on en a plus la lucidité, en fait. Moi, ça aurait été que de moi, je m'arrêtais tout le temps, en fait. Je repartais pas au bout d'un moment, tellement j'étais fatigué. Donc je pense que physiquement j'avais les capacités physiques d'être dans les 3 premiers, ou de mettre 9 ou 10 jours de traversée, mais le sommeil est quelque chose, un paramètre que j'avais pas assez anticipé et qui m'a fait défaut de très nombreuses fois où j'avais envie de m'arrêter parce que j'en pouvais plus, quoi. Voilà.
Ça fait des journées de combien d'heures ou de kilomètres, du coup?
Alors,
alors, moyenne.
Alors les kilomètres varient puisque par exemple pour le Kansas et le Missouri, ça se fait très très vite quoi. En plus avec un bon vent dans le dos, on trace comme l'éclair. Mais bon, le Colorado avec des rocheuses à 3003.
Oui, parce qu'il y a du relief en plus.
Ah bah oui, ce serait pas drôle. Il y a les rocheuses dans le Colorado, hein, donc le Kansas, on est quand même, c'est tout plat, mais le Kansas c'est quand même à 1500 mètres d'altitude, hein, donc on a 1000 kilomètres de plat, mais à 1500 mètres, donc on s'en rend pas compte, mais on est quand même haut.
Il y a moins d'oxygène, donc ouais.
Ouais, et puis on est un peu complètement déboussolé. Hein. Moi, je suis arrivé sur la fin des plaines du Kansas, j'avais la sensation d'être en altitude, quoi, alors que c'était plat, mais j'avais mentalement la sensation d'être très très haut, quoi. Donc il y a vraiment un paramètre où on est complètement désorienté.
Puis je présume que dans une épreuve comme ça, le corps est affûté, donc la pression atmosphérique, même instinctivement, tu la sens, quoi. Tu sais que tu es en altitude, ouais. Parce que tu...
Tout à fait. Ouais. Tout à fait. J'avais des repères sans savoir, j'avais des repères qui m'alertaient sans avoir l'information externe, ouais.
Comme un oiseau-migrateur, quoi.
Presque. Voilà. Mais c'est vrai que je suis arrivé affûté, effectivement. Et j'avais aussi une stratégie d'alimentation, puisqu'on est obligé, hein, sur cette course-là, je vous le rappelle, on dépense entre 15 000 et 20 000 calories par jour.
C'est donc 10 fois ce que fait un adulte normal dans une journée.
Tout
en
à fait. Tout à fait. Mais on va encore un peu plus loin. C'est que le corps humain ne peut pas absorber plus de 6000. C'est-à-dire, humainement, l'intestin, le foie n'est pas fait pour absorber 6000 calories. Donc vous allez me poser la question. Mais alors, comment tu as fait?
Alors, comment tu as fait?
Voilà. Eh bien, en fait, c'est pas compliqué. C'est que j'ai pris énormément de retours d'expérience d'autres cyclistes ultra-distance en Europe. Savoir comment ils faisaient. L'alimentation en ultra-distance est très particulière et est basée sur de l'alimentation liquide. C'est-à-dire hyperprotéiné. Voilà. C'est-à-dire que dans une boisson de 200 ml, vous avez vos 400 calories. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai comblé mes 5000 calories d'alimentation avec des petits sandwichs, du salé, du sucré, pour varier énormément, parce que si vous prenez que du sucré, bah votre foie, à un moment donné, il accepte plus, donc il faut couper avec du salé. J'ai pas du tout bu de boisson de poudre hydratante, enfin énergisante, ouais. Pas du tout, j'ai bu que de l'eau salée. Alors ça peut paraître paradoxal, hein, mais j'ai traversé le désert en buvant de l'eau salée et avec un nombre de pincées en fonction des degrés qu'il y avait. Voilà, s'il y avait plus de 40 degrés, bah c'était 4 pincées de sel. S'il faisait 20 degrés, c'était 2 pincées de sel pour justement couper le sucre et faire que mon corps prenne la bonne énergie, quoi.
Et puis en même temps, je présume pas perdre trop de flotte parce que tu devais
la journée où on a passé le désert, j'ai bu 20 litres d'eau. Ouais. Bah, c'était 50 degrés. Hein. 50 degrés, on est parti le matin à 5 heures du matin, il faisait déjà 25. À 8 heures du mat, il faisait 35. Et on arrivait vraiment dans l'Arizona, à l'Utah, quoi. Donc là, c'est les westerns, c'est les décors de western. Il y a juste les cactus, il n'y a rien d'autre. Et c'est très sec, très très sec. Au point que mon cadre était bouillant, je ne pouvais plus le toucher. Mes cocottes étaient bouillantes, je ne pouvais plus les prendre, quoi. Ça m'a même à un moment donné alerté où j'ai dit à mes assistants, ça ne va pas être possible, quoi. Il faut qu'on trouve une solution. Donc on a trouvé la solution de me recouvrir entièrement de glace. Donc j'avais un sac de glace dans le dos, un sac de glace. Sous le casque et sur la nuque, et je m'arrêtais toutes les 20 minutes et 30 minutes, voire un litre d'eau, et repartir pour faire baisser mon corps en température. Ouais, il y a eu ce jour-là d'ailleurs cette personne qui m'était hospitalisée parce que.
Et si on te donne le choix entre rouler dans du froid-froid ou rouler dans du chaud-chaud, tu préférerais quoi?
Alors j'ai jamais roulé dans le froid-froid, même si pour m'entraîner au mois de janvier-février l'année passée, j'ai roulé par 6h, 7h du matin par des moins 5, moins 6 degrés, mais c'est par rapport aux 50 degrés, c'est pas comparable. Mais je dirais que le chaud, on peut s'arrêter, faire baisser sa température, repartir. Bon, ça peut le faire. Le froid, ça doit quand même être terrible. Je pense que le froid, ça doit être terrible.
Parce que moi, j'ai fait des. On parlait tout à l'heure en discutant en off des recos qu'on avait fait avec Grincheux. On en a fait une, c'était la numéro 2, mais la numéro 1, moi je l'avais faite en janvier. On t'avait parlé de mars, moi je l'avais faite en janvier. Et dans le sud-est de la France, parfois en hiver, avec les journées de Mistral, ouais. On peut descendre à du moins 15, moins 20.
Ouais, ouais,
j'ai démarré à du moins 15 et j'ai fait toute une matinée à moins 15. Moi, en fait, c'est bizarre parce que j'ai pas du tout la même perception. J'aurais plutôt tendance à dire le froid, on peut s'en isoler, la chaleur, on peut pas la perdre.
Oui, oui, c'est possible aussi. C'est,
tu
possible.
Vois, c'est comme ça que je le vois.
C'est donc, possible.
Mais après, je pense que ça va être paradoxal.
Oui, mais peut-être que sur la durée, quand tu commences à avoir les pieds qui gèlent, ouais. Etc.
Voilà. Après,
il y a des extrémités du corps qui ne bougent pas quand on fait du vélo, ou pas suffisamment pour se réchauffer. Autant les jambes, les bras, le torse, on bouge, on se réchauffe avec le froid.
Mais les extrémités, c'est plus compliqué.
Les doigts et les pieds, c'est très très dur à réchauffer. Et alors que le très chaud, comme tu l'as dit, on trouve des mesures extrêmes pour pour se refroidir, mais on arrive à faire baisser sa température.
Mais après, je pense que tout est une question, faut s'adapter. Il faut vraiment s'adapter aux situations, que ce soit le froid, le chaud ou la pluie. Parce que notamment sur le record que l'on avait réalisé sur Dunkerque-Marseille, sur 53 heures, j'ai pris 40 heures de pluie. J'ai traversé la France sous la pluie, en fait, hein. Donc,
concrètement, ça devait pas être agréable, quoi.
Ouais, c'était une galère. Enfin, honnêtement, j'ai râlé, en fait. J'ai râlé contre le ciel, j'ai râlé contre le temps, j'ai râlé contre la pluie. Toute la course, j'ai râlé, en fait. Mais ça a été un très bon entraînement pour les États-Unis, parce que les 24 dernières heures, c'était les tornades, c'était les torrents, enfin, c'était des conditions terribles, terribles. Donc, ça m'a servi. Mais on avait utilisé la même stratégie, c'est-à-dire que là, je m'arrêtais toutes les heures pour me changer pendant que mes assistantes faisaient sécher mes affaires dans les ventilations de la voiture. Et on tournait comme ça, et c'est comme ça que j'avançais. Et voilà, la leçon aussi de cette course-là, c'est de dire à chaque fois qu'il y a un problème, il faut forcément essayer de réfléchir et de trouver une solution pour avancer.
Pester dans les fringues mouillées et puis baigner les fringues secs.
Ah, c'était ça, ouais.
Nous, généralement, on le vit en vélo taf une fois par jour. Toi, tu le vivais toutes les heures, quoi.
Ouais, et puis il faut faire attention parce que la peau fait éponge. C'est-à-dire que 40 heures de pluie comme ça, au bout d'un moment, la peau, ben, elle éclate, quoi. C'est-à-dire qu'elle gonfle, elle gonfle et puis elle prend l'eau, en fait. Et au bout d'un moment, ben, elle peut plus prendre l'eau. Donc, c'est des brûlures après. C'est des brûlures. Donc, il faut vraiment s'enduire le corps de vaseline, de crème, pour protéger justement.
Tu satures la peau pour pas qu'elle. Ah non, tu l'imperméabilises.
Ah ouais, faut l'imperméabiliser, ouais, complètement. Parce
comme
que
une bonne selle en cuir.
Exactement, exactement.
Ouais, effectivement, ouais.
Ouais, parce que là.
Il y a eu la comparaison.
La peau, la peau va faire éponge. Donc, au bout d'un moment, sur quelques heures, vous n'allez pas vous en rendre compte. Mais sur 10h, 20h, voilà, c'est des brûlures, quoi. C'est des brûlures.
Oui, c'est vrai que c'est des tas de paramètres qu'on n'imagine même pas tant qu'on n'a pas été confronté.
Exactement, exactement. Et pour répondre à ta question sur le campeur, alors effectivement, parce que j'ai zappé, je vous excuse, au bout de 5 jours, on était en plein milieu des États-Unis, donc on avait déjà eu de nombreux problèmes de campeur. Quand on est arrivé pour le récupérer, le loueur à Las Vegas nous dit, je suis désolé, je ne trouve plus votre campeur sur le parking, il a disparu. Bon, on lui dit, ça pose un problème parce qu'on l'a quand même loué depuis 6 mois, donc on en a besoin. Et il me dit, écoutez, je vais essayer de trouver une solution. On revient 2 heures après, toujours pas de campeur. Donc là, il nous dit, la seule solution, c'est celui qui est au dépôt, hein. Donc on récupère ce campeur là et déjà en partant donc du dépôt pour aller à Los Angeles, il y a 4 heures de route, mes assistants sont déjà fait arrêter par la police. Donc là-bas aux États-Unis, ça rigole pas trop, hein, voilà, tout ça parce qu'il y avait des petites lumières qui ne fonctionnaient pas, donc ils ont perdu 4 heures. Donc déjà ça a commencé comme ça, et puis on a toujours eu des petites pannes, les slides qui n'arrivaient pas à se rentrer parce qu'on avait un campeur avec des slides sur le côté pour agrandir la chambre et la réduire. Donc on a déjà eu une journée où on a été bloqué. Okay. Et puis à un moment donné, il n'a plus démarré. Donc on était dans le Missouri, donc il nous restait encore 4 à 5 jours de course, et il n'a plus démarré. Et le loueur de campeur étant à Las Vegas n'avait pas d'autre solution que de l'emmener dans un garage, et il a fallu qu'on reloue autre chose, mais on n'avait plus les moyens financiers de louer un campeur, donc on a loué un van en fait. Donc on a terminé 4 jours et demi de course, 5 jours de course avec un Renault Espace, on va dire ça comme ça, et un minibus 9 places. Voilà, avec 8 personnes plus moi, donc 9, sans sanitaire, sans cuisine, sans lit. Donc les conditions étaient assez terribles pour toute l'équipe en fait. On dormait sur les bancs publics, voilà.
Oui, là c'est.
C'était une véritable épreuve.
Ce qui est cool, c'est que ça veut dire quelque part ton équipe, elle a souffert avec toi.
Carrément.
C'est bon, quoi.
Carrément.
C'est bon.
Et personne n'a râlé. Hein. Personne n'a râlé. Tout le monde était solidaire. Tout le monde était vraiment concentré autour de moi et autour de la réussite. Parce que c'est leur réussite aussi. Et tout le monde voulait finir cette course en fait. Ouais.
Bah, c'est un très bel exploit.
Tu nous parlais tout à l'heure, tu nous disais qu'il y avait des aventures dans l'aventure, il y avait des choses que tu avais, des points en soi. Donc déjà, le camping-car qui lâche
le camping-car,
en soi, c'est une belle déjà. Il y en a une autre que tu as retenue, je sais pas, une poétique, alors, une vraiment...
Il y a une anecdote que tu as relatée sur Facebook il y a quelques jours, la rencontre avec le coureur italien qui vous avait dépanné de pattes.
C'est aussi, ces épreuves-là sont aussi des épreuves de solidarité, puisque du fait que le camping-car ait tellement de problèmes, à un moment donné, nous, dans la course, on peut pas s'arrêter. C'est-à-dire que moi, coureur, dans le règlement, je n'ai pas le droit de faire demi-tour. C'est-à-dire que même si je suis un carrefour, mes assistants sont garés 100 mètres plus loin. Si je fais demi-tour avec mon vélo pour aller les rejoindre, j'ai un commissaire qui me voit faire, je prends une sanction. Donc, sur ces courses-là, il n'y a pas d'argent à gagner. Donc, c'est pas des sanctions financières, c'est des sanctions en temps. Donc, une amende, c'est un quart d'heure. D'ailleurs, j'ai eu 2 amendes. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Voilà, ça c'est risible. Mais... Donc, il y a ce coureur italien qui effectivement ça faisait déjà peut-être 2 jours qu'on n'avait pas notre équipe entière parce qu'il s'était bloqué avec le camping-car et on n'avait plus à manger, très clairement on n'avait plus à manger, on n'avait plus de quoi se faire à manger, donc plus de pâtes, plus de riz, et en vélo faut bien bien des féculents, voilà. Même si j'avais mon alimentation liquide, à un moment donné, il faut manger un peu de solide. Et donc, au lever du jour, on était vers Greensville, je crois que c'est dans l'Illinois, je crois, Missouri-Illinois. Et je reconnais la voiture suiveuse du coureur italien au loin. Et donc, je dis, bon, je vais accélérer un peu, je vais rattraper, quoi. Et en me rattrapant, plus je le rattrapais, j'ai eu l'idée, en fait. En le rattrapant, je me suis dit, c'est des Italiens, ils sont bien des pattes, quoi. Ils ont forcément des pattes, quoi. Et ils ont forcément des pattes. Donc, je l'ai rattrapé, j'ai accéléré un peu plus. Et ses assistants, je leur ai un peu tapé au carreau. Ils sont sortis. Et je leur ai dit, voilà. Donc, je leur ai parlé moitié italien, moitié anglais.
Bon, Arnaud Manzanini.
Voilà. Des pattes, normalement, donc, j'ai fait avec les mains. Et ils ont compris. Donc, je leur ai dit, en gros, que voilà, on avait des problèmes de campeurs. On n'avait plus rien à manger, s'ils pouvaient nous dépanner un peu, quoi. Et en fait, une demi-heure plus loin, plus tard, ils avaient prévenu leurs assistants par téléphone, et au bord de la route, ils nous ont donné 5 kilos de pâtes, des panines. Donc c'était une vraie solidarité. Et malheureusement, ce concurrent, quelques heures après, abandonné pour un gros problème de tendinite qu'il m'avait évoqué juste avant, d'ailleurs, au genou. Et c'était triste, parce que on est sur ces épreuves-là, on est triste de voir un concurrent abandonné, quoi. Le seul objectif à nous tous, c'est de terminer. Il n'y a pas de classement.
L'objectif, c'est d'arriver au bout.
C'est de la finir.
Mieux que les concurrents. C'est une course contre soi-même.
Exactement, c'est une course face à soi-même. Ouais.
Ça correspond au brevet, en fait, en France, c'est le BRM, quoi.
Exactement, il y a de la solidarité, il y a de l'entraide. S'il y a une équipe sur le bord de la route qui a un problème, on ne va pas passer comme ça devant eux, on va s'arrêter, demander si tout va bien et si on peut l'aider.
J'imagine surtout le moment où quand tu as dû le retrouver à l'arrivée, quoi. Tu l'as revu, non ?
Oui, parce qu'il y a une cérémonie toujours à la fin, donc on s'est tous serré dans les bras. Parce que
il y a ceux qui sont tombés au champ d'honneur, il y a ceux qui sont arrivés jusqu'au bout.
C'est ça, et puis on prend toujours des nouvelles. C'est ça qui est intéressant. Moi, à chaque fois que j'avançais, je disais, mais Franco, où est-ce qu'il en est? Comment ça va? Et mes assistants me disaient, mais écoute, Arnaud, ça fait déjà quand même 10 heures que son GPS a pas bougé, donc c'est pas bon signe. Donc, j'étais inquiet pour lui aussi, quoi. Voilà. Donc, et je pense que lui me suivait aussi. Et il y a une vraie, on se suit toujours. Je sais que cette année, il est à nouveau, il s'est réinscrit sur cette course-là. Je pense qu'il a vraiment envie de la terminer. Je lui souhaite, quoi. Je lui souhaite de la finir parce que c'est un vrai épanouissement.
Et je me dis que tout à l'heure, tu disais qu'une fois qu'on a terminé ce genre de course, on est assez serein pour tout ce qui peut venir et on se connaît véritablement. Je me dis aussi que vis-à-vis de ce genre de relations, les relations humaines, là aussi, tu les connais véritablement profondément, tu sais ce que c'est que d'être c'est fort, quoi.
J'en ai les frissons d'ailleurs, rien qu'en l'évoquant, c'est-à-dire que...
Quand tu en parles, moi aussi, j'avoue.
Ouais, mais c'est vraiment fort, parce que même les personnes qui sont avec vous se révèlent de toute façon, c'est-à-dire qu'avec la fatigue, vous n'avez plus de filtre, en fait. Vous n'avez plus de filtre et vous êtes... Moi, c'est ça aussi pour ça que j'ai fait cette course, hein, parce que quand je l'avais terminée, cette course, je l'avais déjà terminée en 2013, mon équipe de deux, donc on avait mis 8 jours et 2 heures ou 3 heures, je crois. Donc c'était pas le même effort et en fait j'avais un petit peu un goût d'inachevé. Je voulais vraiment aller au bout, quoi. Voilà, je voulais vraiment. J'avais fait à deux, c'était bien, mais je voulais vraiment connaître ça, parce qu'aux États-Unis, quand vous arrivez aux États-Unis et que vous êtes finisher, il y a une vraie reconnaissance. C'est-à-dire que vous êtes vraiment, vous faites partie des finishers de cette course-là. Ils ont vraiment connaissance de l'exploit et de ce que ça nécessite comme préparation, comme encadrement, comme organisation. Parce que déjà d'être au départ de cette course, il faut déjà avoir une équipe autour de vous qui vous soit fidèle et qui soit projeté et qui en gros vous fasse aussi confiance, parce que quelque part si moi j'ai pu réaliser un de mes rêves, un de mes défis, c'est grâce à cette équipe là quoi. Sans eux, sans une équipe, cette course, vous faut même pas espérer faire 2 jours, quoi. C'est pas possible. Donc il y a un vrai esprit de solidarité et moi c'est ce qui m'avait ému tout au long de la course. De toute façon, j'ai presque à un moment donné, je pédalais plus pour eux que pour moi, hein.
Il y a Mogor qui me passe des petits messages pour te poser des questions. Donc tu as un petit à moitié répondu, mais est-ce que les coureurs ont des mouchards de type GPS que les commissaires peuvent voir?
On a même l'obligation, c'est-à-dire que quand on nous appelle un par un, le départ est fait toutes les 2 minutes sur la ligne de départ, on a un commissaire qui nous remet notre balise GPS que l'on doit porter avec nous, parce que c'est ce qui permet à toutes les personnes qui nous suivent sur Terre de nous suivre, parce qu'il y a une carte qui est faite et on peut nous suivre en direct. Donc on a l'obligation d'avoir le GPS pour des questions aussi de sécurité. Ouais.
Alors je vais bien te dire mieux, il faut savoir que donc Mogor, Grincheux, Warthog et moi, on se connaît d'un forum qui est le forum Vélotaf.
Et de soutien qu'on vous donne, parce que vous êtes tellement dans un état de fatigue que si vous commencez à réfléchir et à vous poser la question pourquoi vous êtes là, vous arrêtez rapidement, quoi, parce que les conditions sont pas terribles. Donc tous ces messages là de soutien, le fait de savoir qu'il y a des gens aussi qui vous suivent, quelque part c'est pas de la pression, mais vous devez d'avancer, de pédaler et puis d'aller au bout de vous-même, quoi.
C'est de la pression, mais c'est de la pression positive. C'est,
carrément, carrément.
C'est un moteur. Au niveau, tu parles de tes proches, au niveau de ta famille, comment ta famille l'a vécu, comment ça...
Bah, disons que ça a été c'est une parenthèse, hein, parce que c'est énormément de sacrifices. Quand j'étais pas au boulot, j'étais sur le vélo, hein, c'était 25 heures d'entraînement par semaine, donc c'est juste, même maintenant avec le recul, je me demande comment j'ai trouvé 25 heures d'entraînement dans la semaine. Bah, j'ai la réponse, c'est que j'étais jamais chez moi, en fait, quoi. Voilà. C'est-à-dire que je partais les samedis, dès que j'avais des créneaux de libre, je partais m'entraîner, non pas 2-3 heures, mais 12 heures. Je partais à 7 heures le matin, je rentrais à 7 heures le soir. Voilà, parce que c'est une épreuve où il faut endurcir son corps, en fait. Il faut lui mettre des coups tout le temps pour qu'il
le passage de l'autre côté du miroir, quoi. Il doit être.
En fait, il faut être. C'est l'expérience. On parle d'expérience sur cette course-là. L'expérience est déterminante. C'est-à-dire que quand vous l'avez déjà vécu, vous savez que vous allez avoir des moments d'euphorie. Ça fait partie de la course, de toute façon, et des moments aussi où vous êtes au fond du saut, quoi. Donc, il faut réussir à gérer les pics d'euphorie et gérer les pics de détresse, quoi. Et c'est pas facile. Il faut vraiment. En fait, je pense qu'il faut être énormément à l'écoute de son corps. Moi, sur cette course-là, je n'avais pris aucun cardio.
Tu nous parlais de tes amendes tout à l'heure que tu as.
Oui. Alors, j'ai pris deux fois un quart d'heure d'amende sur la rame. Sixième ou septième jour de course, on est arrivé dans un état. Je crois que c'était le Missouri. Et là, on est tombé sur un commissaire typiquement Texas Walker Rangers. Là, voilà, c'est typiquement ça, quoi. C'est-à-dire qu'il était avec son 4x4, limite l'étoile sur la poitrine. Et en fait, pendant je sais pas 6 ou 7 heures, il nous a pas lâché. C'est-à-dire qu'il nous tournait vraiment autour pour voir si on faisait pas la moindre erreur. Une pression énorme. Et il est arrêté sur le bord de la route à un moment donné. Mes assistants était aussi arrêté, et moi j'avais une envie pressante, donc on est en pleine nature, hein, donc je m'arrête, je me mets sur le côté, et puis j'urine, et j'ai eu pris une amende pour ça, parce qu'il estimait que j'avais uriné devant lui, donc j'ai pris un quart d'heure pour cette raison-là, voilà. Ah, ouais, alors que bon, sur le coup, ça m'a, quand mes assistants m'ont dit « Arnaud, t'as pris une amende, mais pourquoi ? Est-ce que tu t'arrêtes à uriner ?» Bah, on est en pleine nature, je vais où ? J'ai pas de camping-car, j'ai pas de... Donc j'ai pris un quart d'heure pour ça, et le deuxième quart d'heure, ça a été, c'était une raison pour mes assistants, je crois, ils étaient garés trop près de la route, il fallait une distance, enfin, les commissaires sont assez stricts, et notre sécurité aussi, hein, mais...
Des points très très tatillons, comme seuls les Américains savent le...
Ah, mais avec le règlement, ils rigolent pas, ouais. Si vous êtes convoqué à la photo pour la photo officielle à 10h, si vous arrivez à 10h05, vous prenez un quart d'heure d'amende, quoi, enfin, c'est... ça rigole pas.
Bon, alors du coup, quand on a fini une course comme ça, qu'est-ce qu'on a envie de faire après ? Qu'est-ce qui t'intéresse ? Est-ce que c'est une fin en soi ? Tu te dis voilà, j'ai fait quelque chose d'exceptionnel et je l'ai terminé, j'en suis fier, et j'ai pas forcément d'autres envies derrière aussi exceptionnelles, ou est-ce que ça te pousse à la refaire, essayer une autre course ? Je pense aux 24 heures du Mans à vélo, ou encore plus fou la TCR, la Transcontinental Race qui est en Europe aussi, qui a l'air d'être bien barré.
Ouais, il y a aussi la Transsibérienne qui
c'est la Russie. Ce genre de choses.
Bah, en fait, là, tout de suite, j'ai juste envie de profiter de mes proches. Là, vraiment, parce que ça a été... je partais m'entraîner, je savais pourquoi je partais m'entraîner, mais bon, je ne suis pas professionnel, quoi. Hein, voilà. C'était pris sur mes heures du temps que je devais passer en famille. Donc là, dans un premier temps, plus le temps passe... Plus je commence à prendre conscience vraiment de ce que j'ai réalisé, parce que sur le coup, pour moi, c'était pas forcément un exploit, parce que je m'étais entraîné pour ça. Donc je savais les sacrifices que j'avais faits. Pour beaucoup, ça peut paraître de la folie, en fait. C'est ça le truc, c'est que pour beaucoup, ce que j'ai fait peut paraître de la folie. Pour moi, non, puisque tout était préparé. C'est-à-dire que j'avais travaillé pendant 2 ans sur l'alimentation, sur légèrement, enfin un petit peu le sommeil, mais je savais où j'allais, sur mes entraînements physiques, sur mes zones de cardio à travailler. Enfin, c'était quand même hyper bien maîtrisé. On avait mis une stratégie en place. Voilà. Donc pour beaucoup, ça peut paraître de la folie, mais pour moi, non. Donc plus le temps passe, plus je commence à me dire « Ah ouais, quand même. Ah ouais, on a réalisé ça, ouais. »
Mais moi, je comprends tout à fait. Quand je vois déjà les réactions qu'ont eu certaines personnes, quand j'ai dit que je suis parti pendant 7 jours pour aller à Paris avec mon fils qui avait 4 ans et demi,
parce qu'en fait, on est tous installés maintenant en 2015 dans un rythme de vie où le confort est partout, et on est tous installés dans notre propre petite zone de confort, et que beaucoup s'imaginent pas l'effort nécessaire pour en sortir. Donc c'est vrai que dès qu'on prend le vélo, ça peut surprendre, ouais.
Et voilà, moi, les reproches qu'on m'a fait ou les tenez surtout sur le fait que j'avais une part d'imprévu. Bah oui, c'est la vie, il y a l'imprévu. Voilà. Maintenant, je traversais la France.
Mais putain, s'il n'y avait pas d'imprévu, qu'est-ce que ça serait chiant.
Ouais, mais on est aujourd'hui de plus en plus habitué à ce que tout soit bien formaté.
Alors que ça marche pas, parce que toi, tu t'es préparé et il t'est quand même arrivé des choses.
Bien sûr, complètement. Voilà. Et c'est pour ça, tout à l'heure, je disais qu'il faut faire preuve d'adaptabilité, parce que, et comme dans la vie d'ailleurs,
sauve.
Bah bien sûr, sinon, mais vous abandonnez à la première épreuve, quoi.
C'est la faculté ultime de l'être humain en plus, c'est l'adaptabilité, voilà. C'est. Ouais.
Bah, j'ai eu des blessures aussi, on s'est adapté, j'ai eu des blessures à la selle, hein, c'est-à-dire qu'au bout de 3 jours, bon bah voilà, les brûlures à la selle arrivent, on le savait, hein, un cuissard mal rincé, avec de la lessive, de la transpiration, ça fait un peu un cocktail, hein, donc j'ai eu 10 brûlures au niveau de la selle, comme le petit doigt, quoi. Hein, donc ça a été compliqué, je savais que ça pouvait arriver, mais pas aussitôt, donc ça a été quand même un stress pour moi. Et puis mes assistants ont assuré, ils ont trouvé une solution, et on a discuté aussi avec un coureur américain qui avait le même problème, qui lui avait directement été à l'hôpital, et il nous a donné des patchs que l'hôpital lui avait donné, et puis on s'en est sorti, quoi, voilà. Donc c'était pas confortable pendant quelques jours, mais on trouve une solution, voilà, on se met un petit peu à droite sur la selle, un petit peu à gauche, et on avance, pas au même rythme, mais on avance.
Alors j'ai une nouvelle question de Mogor. Tu veux pas prendre un micro plutôt?
Bonsoir, je fais une apparition surprise. Du coup, je ne sais plus ma question. Si, ma question, c'est par rapport au vélo lui-même. Qu'est devenu le vélo de la rame? Est-ce que tu vas le laisser en l'état? Est-ce que tu vas le reconvertir en vélo pour faire autre chose? Ou ça va rester un vélo de, je sais pas, de course, de super...
Alors, pour l'instant, ils ont gardé la même configuration. J'ai gardé les sticks, j'ai tout gardé dessus. J'ai envisagé à un moment donné de les transformer pour m'en servir tous les jours. Voilà. Mais les cotes, les dimensions, sont pas du tout pas forcément adaptés, mais sont pas du tout les mêmes. Donc pour l'instant ils sont bien en vue chez moi, comme à côté de ma médaille et de mon trophée, et puis c'est pas une question que je me suis posée, mais c'est vrai que c'est quand même un vélo qui a fait 20 000 bornes en très peu de temps, donc même si c'est du carbone, bon,
oui,
au niveau de la compétition je pense qu'il a vécu, donc il aura certainement une seconde vie, ouais.
C'était le fait de passer autant de temps dessus et de s'adapter complètement
entre
le vélo et l'homme qui me faisait penser à ça.
C'est vrai qu'il a été même je crois que 3 semaines encore avant le départ, sur mon vélo de chrono, je faisais encore des réglages avec des pièces que moi j'avais sciées parce que je trouvais que j'étais pas assez plat au niveau du dos. Donc le vélo de chrono, il a vraiment été travaillé jusque 3 semaines avant le départ, ouais, pour trouver la bonne position, la plus confortable.
En fait, c'est bien que Mogor tu sois intervenu, parce que du coup j'ai 2 questions qui me viennent. La première, c'est de savoir, tu avais droit qu'à un seul vélo pour la rame, ou tu pouvais
sur cette course là on peut prendre autant de vélos qu'on veut, hein. Il y a même pour vous dire, hein, les Américains sont très pointilleux. On le savait au départ, on avait une portion de route juste en quittant le Kansas qui était à peu près de 5 km, mais c'était un chemin en fait. C'était un chemin complètement, parce que la route, il y avait des travaux. Il y a même des coureurs américains qui, pour cette portion là, ont utilisé un vélo de cyclocross. Donc on utilise autant de vélos qu'on veut, voilà.
Et je présume qu'à l'entrée tu as vu le Verenti, c'est le vélo de Warthog, et c'est un cyclocross.
Exact, il est magnifique d'ailleurs, hein.
Merci beaucoup.
D'accord, ça c'était la première question. Donc ouais, vélo, tu pouvais prendre ce que tu voulais. Et la deuxième, on t'a pas posé la question, et je crois qu'à la limite, de toute façon, on n'aura aucun jugement par rapport à ce que tu as fait. La question, c'est tu utilises le vélo tous les jours pour te déplacer, pour aller au boulot, pour...
J'essaye, je l'ai fait, voilà. Là, c'est un peu plus compliqué parce que j'ai des contraintes où je dois pouvoir me déplacer rapidement, et voilà. Donc c'est pas facile, mais là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais remonter un fixie pour le début d'année, mais en ville... C'est ce qu'il y a de mieux et de plus rapide, voilà. D'ailleurs, juste petit clin d'œil, en Californie, juste avant la course, je me suis entraîné un petit peu pour me dégourdir les jambes. Là-bas, à ma grande surprise, j'avais un peu peur d'aller m'entraîner là-bas en Californie. Je me suis dit que les voitures, ça va être compliqué. Est-ce que je vais pas me faire renverser? Et à ma grande surprise, en fait, il y a une voie entière qui est réservée au vélo, quoi. C'est-à-dire que si vous avez 3 voies, mais la voie de droite, c'est 3 mètres que pour le vélo. Donc, j'ai pu m'entraîner en toute sécurité. Et je me suis dit que nous, en France, ça serait quand même super bien, vachement bien, si on pouvait s'inspirer de ça, quoi.
C'est vrai que c'est quand même très loin de l'image qu'on a de,
ah, mais à ma grande surprise,
de l'accessibilité du vélo aux États-Unis.
Par contre, je crois que quand il y a cette voie, tu peux pas mettre les roues en dehors, même s'il y a quelqu'un de garé dessus. Il y a pas une histoire dans ce genre-là. C'était
à New York qu'il y avait un
Casey quelque chose. Un chroniqueur vélo new-yorkais qui s'était pris une amende parce que justement il était sur une borne. Il est sorti parce qu'il y avait une voiture qui était mal garée. Un policier s'est arrêté, lui a collé une prune de 10 dollars.
Ah, c'est possible, ouais.
Et justement, pour protester contre ça, il a fait une vidéo où il restait strictement dans la bande et il se prenait tous les obstacles.
Il avait bricolé un vieux tromblant et il l'a quand même encastré dans le cul d'une voiture de flic. Ils n'ont pas eu le mauvais goût de venir le lui reprocher.
Ouais, non, mais c'est vrai que j'ai vraiment été agréablement surpris par ça. Donc j'ai pu faire un entraînement en toute sécurité, mais vraiment, j'étais ravi. J'ai pu faire même une heure de plus tellement j'étais vraiment bien. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, il y a 3 ans de ça, moi je me suis fait renverser sur une bande pour cyclistes, enfin sur la bande réservée aux vélos, et à Lyon, hein, sur les quais.
Sur les quais
en face, en allant en direction le pâté vers Vèze. Un taxi s'est m'a gentiment doublé, et puis a posé sa cliente 200 mètres devant moi. Et m'a pilé en fait, voilà. Et ben, j'ai pris complètement l'arrière du taxi avec clavicule cassée, 2 mois d'immobilisation. Et le taxi, bien évidemment, est reparti sans me demander de mes nouvelles.
Putain,
voilà,
c'est horrible quoi.
Donc, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont faites, mais ça serait vraiment un luxe si on pouvait se déplacer en vélo en ville, c'est juste extraordinaire.
Bah écoute, au nom de la ville à vélo, je vais dire on y travaille. C'est pas évident, c'est dur, il y a des mentalités à changer, mais on y travaille, écoute.
C'est tellement agréable.
Depuis le moment où j'ai commencé il y a 6 ans et aujourd'hui j'ai quand même pu voir que ça avait changé, hein. L'aménagement est un petit peu mieux fichu quand même.
Ouais, c'est vrai.
Après ça serait bien que ce soit dans toutes les villes. Mais...
Ok, bah je crois qu'on a un peu fait le tour des questions qu'on voulait te poser. Si tu voilà, tu nous disais que tu avais des impératifs, donc si tu veux y aller, tu vas.
J'ai une question.
Tu peux rester autant de temps que tu veux, il y a pas de souci.
Tu parlais d'un livre tout à l'heure. C'est un projet sur lequel tu as déjà des jalons, tu as une idée des dates ou pas du tout pour le moment? C'est le début du projet.
Alors des dates, non, j'ai pas de date, mais aujourd'hui je travaille avec un écrivain sur Paris que j'ai rencontré, voilà, et là on travaille sur une lettre d'intention puisque dans les maisons d'édition il faut commencer comme ça, c'est-à-dire on les prospecte, on va dire ça comme ça, avec une lettre d'intention. Et une fois que la maison d'édition est intéressée, bon voilà, tout se met en route et après il a son réseau de distribution. Mais disons que oui, il y a un livre qui sortira, ça c'est évident, parce que c'est quelque chose auquel je tiens pour faire partager ce qu'on a vécu à toutes les personnes qui nous ont soutenus. Voilà, ce qui est aussi important, c'est que moi au tout début du projet je me suis associé, j'ai fait un partenariat avec l'association Rêve, qui est à Trévoux, mais c'est une association qui est nationale et qui réalise le rêve dont le pronostic vital des enfants est engagé. C'est-à-dire qu'à chaque fois que dans un hôpital le médecin décide que le pronostic vital de l'enfant est engagé, cette association passe et l'enfant émet 3 rêves et l'association essaie de réaliser le rêve des enfants. D'ailleurs, moi je m'étais engagé à reverser un pourcentage de tous des dons des sponsors qui m'étaient faits à l'association, et ça sera fait mi-décembre puisqu'on va faire une soirée, on va pour nos sponsors déjà qui nous ont soutenus, et on va remettre le chèque justement à cette association, et ça correspond à peu près à la réalisation de 2 à 3 rêves d'enfants puisqu'en moyenne voilà. Donc déjà rien que ça, on est très très heureux d'avoir participé à ça. Et le livre, c'est aussi pour faire partager à toutes les personnes qui nous ont suivis tout ce qu'on a vécu et moi comment j'ai traversé les États-Unis quoi, même si je vous dis, il y a des time stations où j'ai pas du tout de souvenirs. Les photos, voilà.
Ah oui, ça c'était ma question. Il y aura des photos parce que tu traverses quand même toutes les États-Unis d'est en ouest. Tu dois voir des choses absolument
magnifique.
Fantastiques.
Magnifique.
Tu penses que tu as dû rouler un peu de nuit, forcément.
11 nuits, ouais.
11 nuits, ouais, d'accord. Tu as roulé un petit peu de nuit, du coup. Donc, du coup, tu dois vraiment aussi avoir des choses magnifiques en termes de
c'est. J'en ai à nouveau les frissons, rien que d'y penser, ouais, mais des couchers de soleil et des levées de soleil, juste. Vous avez une sensation de liberté. Alors c'est paradoxal parce que vous n'êtes pas du tout libre parce qu'il y a le chrono qui vous tient, mais la sensation de pouvoir pédaler sur les routes américaines, on s'imagine les routes américaines blindées de voitures et tout, c'est désertique, c'est hormis les grandes agglomérations, c'est des paysages juste magnifiques, plein de nature. L'état du Colorado est magnifique, donc j'ai vu des choses incroyables.
Oui, le Midwest c'est très peu peuplé, donc tu dois avoir des natures absolument
incroyables. Et le livre sera illustré de photos parce que comme comme on dit, une photo vaut mille mots. Hein. Donc, une belle photo permettra de pouvoir voir à la personne ce que moi je décris dans le livre, en fait. Voilà. Donc, j'espère que ça sortira sur 2016, septembre 2016, ça serait l'idéal.
Reste aux aguets, parce que moi je me dis une chose, c'est qu'avec l'association, je me demande s'il n'y a pas dans l'eau des gamins qui entendront parler de ton histoire et qui n'auront pas envie, s'ils en ont la possibilité, ne serait-ce que d'aller faire quelques kilomètres à vélo à tes côtés.
Avec grand plaisir.
Je pense que là, il y aura. Enfin, j'aime le vélo, donc après, je me dis que s'il y a un gamin qui aime le vélo, il aura peut-être envie d'aller rouler un peu avec toi, quoi.
Ouais, mais avec grand plaisir. Moi, j'ai découvert le vélo à l'âge de 4 ans chez un de mes cousins en Italie. Et puis, cette passion m'a toujours tenu. Hein. Alors, c'était un petit peu en vague. Hein. J'ai des périodes où j'ai arrêté pour des raisons professionnelles, et puis après, c'était plus intensif. Mais en tout cas, le vélo fait partie.
C'est comme toutes les religions, quoi. Voilà. Toutes les passions, c'est en vague. Hein.
Exactement.
Vas-y, on va devoir embrayer là derrière.
Vas-y, fais rire maintenant.
C'est l'idée, quoi. Waouh.
Eh ben, merci beaucoup pour.
Merci à vous, Arnaud,
d'être venu.
Merci à vous.
D'avoir si gentiment répondu à notre invitation et à nos questions.
Bon, bah voilà, donc là, on vient de s'asseoir à la table, on a Arnaud... Bah
en fait, là, c'était Noël.
Voilà. C'était Noël, Arnaud vient de nous quitter il y a une minute ou deux, et en fait, tous autant qu'on est, on est tous les quatre autour de la table, et honnêtement, on ne sent pas de commencer à vous parler de vélo quotidien, parce que...
Comment en briller, là?
Voilà, là, il n'y a plus moyen de briller, il n'y a plus... Enfin, tout ce qu'on va dire va être fade.
Vous ne l'avez pas entendu, je crois, parce que c'était quand on discutait après, mais en gros, il a fait 440 km par tranche de 24 heures. Voilà.
Une moyenne de 440 km par jour.
Oui.
Oui, voilà, bonne nuit, bonne nuit, monsieur
Dame. On arrive, voilà. Nounours est passé, vous pouvez, vas-y.
On va laisser cet épisode comme ça, en hors série, puis on va.
Non, mais on peut même leur dire, en fait, on voulait que ce soit l'épisode.
C'était l'épisode 15.
L'épisode 15, mais en fait, ça va être un hors série.
Ça va être le hors série numéro 2.
Voilà, parce que là.
C'est l'épisode de Noël, comme Star Wars.
C'est ça, c'est un peu l'épisode de Noël.
T'as pas dit que c'était annulé.
Voilà. Mogor est contente parce que du coup, bah, elle devait ne pas participer à l'enregistrement. Elle a pu être là, elle a pu participer un petit peu. Elle a pu rencontrer Arnaud. Il y a des moments comme ça qui vous changent la vie. Et waouh. Et. Ben voilà, waouh.
Non mais c'est bien, on va aller faire du vélo pour Kilius, ça va nous
changer
les idées.
On va aller faire du vélo.
J'ai le phare qui est chargé, on y va.
Ouais. Nous on va aller rejoindre nos douces et puis on
on va leur dire qu'on est amoureux d'un autre.
Voilà, c'est ça. On va vous laisser et puis on va rentrer se coucher avec des rêves plein la tête. Et c'est marrant parce que les États-Unis c'est pas un pays qui m'attire, mais là d'un coup bizarrement.
Ouais, puis on a regardé l'album photo. Enfin, je mettrai le lien sur le billet de l'album photo du photographe qui était avec lui.
On n'a pas parlé en off. On mettra aussi le lien de l'association Rêve.
Bien sûr.
Voilà. Et puis bah écoutez. Voilà.
Eh bien, bonne soirée, selon l'heure à laquelle vous écoutez. Et puis on verra quand on enregistre le prochain vrai épisode.
Voilà, vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux habituels, Facebook, Twitter, sous nos pseudos respectifs, et puis sous Cyclocast, voilà. Vous nous connaissez maintenant. Voilà.
Et puis de toute façon, tout est dans le billet.
Tout est dans le billet. À bientôt.
À bientôt.
Salut à tous, bye bye.
À bientôt.